Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. Ce trimestre, nous avons parlé des notions de liberté, égalité et fraternité. Je vous propose d'écouter maintenant une émission animée par Sandrine Brouard sur la relation police-population et autour d'une rencontre basket organisée dans le cadre de l'Observatoire police-population créé dans la ZSP Rive Droite. Vous entendrez Ludovic Armoite, délégué du préfet sur la rive droite Bassins et Sainte-Eulalie, Mohamed Boulawal, directeur de l'AJAG, association Jeunesse Haut-de-Garonne, Taoufik Karbia, directeur d'ALIF, association Liens culturels et familiales, Tommy Davis, joueur de basket et entraîneur au club de Lormont, Philippe Massard, sélectionneur de l'équipe nationale de police. Très bonne écoute sur Haut-de Radio. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur Haut-de Radio 91.3 pour la question d'actualité du jeudi soir, question de médiation. On se retrouve comme tous les premiers jeudis de chaque mois de 19h à 20h pour parler de médiation. Cette émission est l'occasion de relever diverses problématiques quotidiennes des habitants comme le logement, santé, mobilité ou encore accès aux droits et d'engager un dialogue avec les institutions concernées. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur notre site haut-de-radio.net. Aujourd'hui, nous parlons des relations police-population et notamment à travers l'Observatoire territorial Relations Police-Population créé en 2013 et piloté par la préfecture de Gironde. C'est un observatoire unique en France. Alors pourquoi cet observatoire? Quelles sont ses missions? Comment fonctionne-t-il? Et quelles sont les problématiques relevées entre la police-population? Et quelles sont les actions aussi prévues pour faire évoluer cette relation police-population? Pour répondre à nos questions et débattre sur ce sujet, nous recevons un grand plateau aujourd'hui. Donc Ludovic Armoite, délégué du préfet sur le secteur Rive Droite Bassin Sainte-Eulalie. Bonjour. Bonjour. Mohamed Boulawal, directeur de l'AJAG.
Bonjour.
Donc Association Jeunesse Haute-Garonne.
Effectivement, oui.
Est-ce qu'on peut faire juste une petite présentation de l'AJAG?
Tout de suite.
Mohamed.
D'accord, très bien.
On y va.
Donc l'AJAG est une association qui intervient sur les communes de Lormont, Senon et Floirac, donc au titre la prévention spécialisée. Donc elle emploie en fait des éducateurs de rue qui interviennent donc sur les quartiers dits prioritaires de ces trois communes. Et donc le mode d'intervention principal, ça consiste, c'est le travail de rue, qui permet d'aller vers les jeunes, là où ils sont. Et c'est une action, qui est cadrée par un certain nombre de principes, à la fois éthiques et déontologiques. Et les équipes éducatives sont inscrites également dans un tissu partenarial, au niveau de ces trois communes.
Merci Mohamed Boulawal. On n'oublie pas que vous êtes accompagné de deux éducateurs, Mpacho Pauline et Aïssa Brenaïm. Ah, pardon, je me suis trompée dans le prénom. Donc c'est Aïssa.
Dans le nom.
D'accord, bon, excusez-moi. Et aussi d'une éducatrice stagiaire, Mélissa Saboulard. On est aussi accompagné de Taoufik Karbia, directeur d'ALIF, donc, qui vient nous rejoindre, excusez-moi, qui n'est pas encore ici mais qui arrive. Donc on va passer plutôt au joueur de basket, Tommy Davis. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes entraîneur de l'équipe de basket de Lormont.
Exactement, je suis entraîneur de basket, le senior, et aussi directeur sportif de tous les clubs.
Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours?
Oui, vite fait.
Oui.
Je suis américaine.
Ça s'entend.
Voilà. finalement, je suis français aussi. Je suis en France depuis 89. J'arrivais des États-Unis où j'avais fait l'Université de Minnesota. J'étais drafté en 85 par les Dallas Mavericks. J'avais fait des parcours en France. J'ai fait aux Philippines. Depuis 2001, je suis l'entraîneur professionnel.
Merci, voilà. Tommy Davis. Alors, vous êtes accompagné aussi de joueurs de basket. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation?
Bonjour.
Donc, Andy Diop,
ouais.
C'est ça? Donc, joueur de basket à Lormont depuis longtemps?
Non, je suis joueur de basket à Lormont depuis à peu près 2 semaines.
Voilà. Ah, d'accord.
J'étais basketteur de haut niveau pendant une petite dizaine d'années. Mmh. J'ai passé des diplômes d'éducateur. Donc, maintenant, je suis salarié au sein du club de Lormont en tant qu'éducateur sportif.
D'accord.
J'ai joué sous les ordres de Tommy pendant 4 années quand j'étais au JSA de Bordeaux. Là, j'ai fait un retour dans la région vu que je suis originaire de Bordeaux. Et donc, tout naturellement, je suis venu proposer mes services à la ville de Lormont qui a accepté. Donc, on s'occupe un petit peu du basket, voilà, de l'école de basket et des plus grands.
Merci. Et puis Mboup Badou, donc joueur aussi à l'équipe de Lormont.
Oui, c'est ça. Moi, je suis là depuis 2 ans. C'est ma 2e année à Lormont. J'ai commencé le basket à Lormont. J'ai fait 2-3 ans, en fait. Et du coup, après, pareil, hein, j'ai joué sous les ordres de Tommy pendant, je sais pas trop, pendant 6-7, longtemps, ouais, très longtemps. J'ai fait de la nationale avec Tommy, de la Pro B aussi. Et voilà, donc là, j'essaie de préparer ma reconversion, essayer de trouver, de faire autre chose que le basket. Donc on est en train de travailler là-dessus.
Bon, on vous souhaite bon courage. Alors si on vous a invité, hein, c'est bien pour reparler de l'actualité, puisqu'hier soir, il y a eu un match de gala entre l'équipe de basket de Lormont et l'équipe nationale de police, donc avec Philippe Nazar. Donc vous êtes sélectionneur de l'équipe de police.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors comment ça se passe cette équipe?
Alors la police nationale a une représentation comme dans toutes les disciplines sportives au niveau national, suite à un championnat de France qui est organisé. Et donc une sélection d'une quinzaine de joueurs vient composer cette équipe nationale.
Je vous remercie. On va présenter Perotto Maxime, donc qui est policier dans la vie et qui fait partie de cette équipe de police nationale. Et donc vous avez fait le match hier soir contre l'équipe de Lormont. Bonjour.
Voilà. Ben, bonjour. Ouais. Donc moi je suis le régional de l'étape. Hein. Je suis le seul joueur du Sud-Ouest et qui représente donc le Sud-Ouest dans cette équipe nationale. On a retrouvé des anciennes têtes qu'on avait déjà vues sur les parquets. Et voilà, ça fait bien plaisir de jouer au basket contre des mecs sympas comme ça. Voilà.
Donc on reviendra sur cette actualité d'hier soir sur ce match gala. On va commencer avec Ludovic Hermoit, donc délégué du préfet sur la rive droite de Bordeaux. Est-ce qu'on peut déjà expliquer aux auditeurs ce que c'est un délégué du préfet? La mission d'un délégué du préfet?
Un délégué du préfet, c'est un... Pour la majorité des cas, c'est un fonctionnaire d'État qui est détaché ou mis à disposition auprès du préfet dans le cadre de la politique de la ville. Donc nous avons des fonctionnaires qui viennent de divers horizons, donc de directions différentes. Nous avons la police nationale, nous avons l'enseignement, nous avons le ministère du travail. Nous sommes vraiment d'horizons divers. Nous sommes sur Bordeaux, 6 délégués du préfet, répartis sur 3 secteurs. Donc 2 délégués sur les quartiers, sur les communes et les quartiers de la rive droite, 2 sur la rive gauche et 2 pour Bordeaux. Qu'est-ce qu'un délégué du préfet? Quelle est sa mission? Sa mission est de travailler sur tous les champs de la politique de la ville, dans les quartiers identifiés comme prioritaires, en vue de rétablir l'égalité des chances, en tout cas de réduire les inégalités, de tenter de tendre vers la réduction des inégalités sur ces quartiers qui, quelquefois, donc, sont... un peu en décrochage par rapport à la majorité des communes, avec cette envie, cette ambition de tendre vers un retour vers l'équilibre, égalité des chances. Donc nous intervenons sur tous les champs de la politique de la ville, donc politique de santé, politique du logement, politique de travail, politique de sécurité et donc également politique éducative. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place dans tous ces champs et nous travaillons à les mettre en place, à faire un suivi, à les évaluer et donc, bien entendu, également à être force de proposition sur ces thèmes-là.
Je vous remercie. Donc, on va revenir sur l'Observatoire Relations Police-Population. Donc, vous êtes à l'initiative en tant que délégué du préfet sur cet observatoire qui, je rappelle, est unique en France. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est cet observatoire et comment il s'est créé?
Alors, cet observatoire existe depuis mars 2013. Il est né d'une mission participative avec des associations, avec des éducateurs spécialisés, avec des policiers, avec des membres de la société civile, avec des gens de la mairie. Et nous étions partis d'un constat que les relations étaient quelquefois dégradées ou en tout cas n'étaient pas les meilleures possibles entre la population et la police, et également, bien entendu, entre la police et ces jeunes. Et nous avons essayé de travailler ensemble à s'inscrire dans la durée pour travailler à améliorer ces relations.
Merci Ludovic. Est-ce qu'on peut revenir un peu avec les autres structures comme la JAC par exemple? Vous êtes impliqué dans cet observatoire, alors pourquoi avoir fait ce choix de rentrer dans cet observatoire?
Oui, alors effectivement, enfin, comme Ludovic le dit, on est impliqué parce que comment dire, la présence des éducateurs face sur les quartiers les met de fait en rapport avec ces problématiques. Hein, donc enfin, qui sont celles, hein, enfin, des relations entre la police et les jeunes. Et effectivement, donc, enfin, les témoignages que l'on remonte de la part des jeunes font état, hein, donc, de relations enfin, plus ou moins compliquées. Alors, pas tous les jeunes et pas tous les policiers non plus. Hein, je crois qu'il ne faut pas catégoriser hein, donc, à ce point. C'est vrai qu'il y a certaines situations enfin, dans lesquelles comment dire, se posent un certain nombre de rapports hein, qui sont pour le moins compliqués. Donc, notre inscription dans cet observatoire, il a pour objectif, hein, donc, justement, de prendre part d'abord au débat, hein, donc, qui sont organisés dans le cadre de cet observatoire. Mais il a aussi pour objectif, de voir dans quelle mesure, on peut, être aussi un partenaire, hein, enfin, dans la mise en œuvre d'une politique de médiation, entre des jeunes, ou certains jeunes en tous les cas, et la police. Puisqu'au bout du compte, ce qui se joue quand même, c'est la problématique du vivre ensemble. Comment on peut vivre ensemble à l'échelle d'un quartier ou d'un territoire et la nature des relations entre la police et les jeunes participe également à ce vivre ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle on est complètement impliqué dans cet observatoire.
Je vous remercie. À la mairie de Lormont, comment ils sont impliqués dans l'observatoire, Fabienne Tapon?
Dans l'observatoire, de toute façon, la ville est favorable à toute initiative qui peut contribuer à favoriser le bien vivre ensemble, hein, bien sûr, à améliorer les relations entre institutions et habitants, et développer, et c'est vrai qu'on a tout intérêt à développer les différents espaces de dialogue, montrer qu'on peut organiser des choses, de grands moments, en toute simplicité, comme ça a pu se faire hier et avant-hier.
Merci Fabienne Tapon. Ludovic Hermouet, est-ce qu'on peut revenir sur les actions menées depuis le départ sur l'Observatoire? Qu'est-ce qui a été mis en place par l'Observatoire?
Alors, on était parti du premier constat que les relations n'étaient pas obligatoirement fortement dégradé, mais qu'il s'agissait d'abord d'un déficit de connaissances les uns des autres. Donc nous avons d'abord commencé à travailler sur l'image de la police. Qu'est-ce que la police? Que fait la police? Question récurrente, mais que fait la police? Donc nous avons mis en place pour cela des séances d'information dont vous avez été peut-être même les premiers contributeurs, puisque nous sommes venus à Eau de Radio avec le commandant Jean, je me souviens. On avait donc présenté les missions de la police, le fonctionnement de la police, mais également on avait travaillé sur le recrutement de la police. On vous avait présenté les métiers de la police, et à travers les métiers de la police, nous avions fait également état des recrutements en cours. Par ailleurs, nous avions mis en place un module de préparation au concours pour les jeunes des quartiers. Et nous continuons donc à le mettre en place, puisqu'hier soir, lors de la manifestation de basket, il y avait un stand de recrutement avec la présentation d'un dispositif égalité des chances, donc cadet de la République, sur lequel nous travaillons actuellement de manière à y amener, à y inclure des jeunes qui seraient en demande d'intégrer la police nationale sous cette forme.
Oui, alors je rappelle effectivement qu'Eau de Radio est aussi impliqué dans cet observatoire et qu'on est un relais d'information, notamment sur ces recrutements, donc à partir du mois de janvier, je crois, les prochains. Et on passera à l'information tout au long du mois pour comment accéder à ces recrutements et aussi une aide à la formation pour passer les concours. Je voulais passer la parole aux éducateurs de la JAC qui sont au quotidien sur le terrain avec les jeunes et de savoir à peu près quelles sont les problématiques hein, concrètes. Qu'est-ce que vous entendez sur cette relation jeune-police? Si quelqu'un veut bien prendre la parole.
Très rapidement, signifier que les rapports entre la police et la population, on ne peut pas généraliser. Donc comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, il y a une partie des jeunes et une partie des policiers qui ne peuvent pas vivre au mieux ensemble. Et c'est pas inhérent à Bordeaux, c'est inhérent à pas mal de villes. Et, je pense aussi qu'il faut se saisir de certains supports, notamment le sport, pour pouvoir justement casser les idées reçues et puis pouvoir partir sur des valeurs justement qui puissent réunir plus que diviser. Il y a une deuxième notion qui est importante aussi, c'est la dimension judiciaire. Donc au-delà de la police, il y a quand même des actes délictueux qui sont commis. Et il semble aussi logique que la police puisse faire son travail. Par ailleurs, la police peut être sollicitée dans ces zones de quartier pour différentes raisons. Et ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans des dimensions de délinquance, quoi. Donc moi, je n'ai pas de réponse magique. Je pense que des supports sont nécessaires. Ça peut être par la culture, ça peut être par l'art, ça peut être par le sport. Mais réfléchissons surtout sur ces supports qui puissent réunir.
Oui, on en reviendra un peu sur la fin de l'émission sur les supports ou les actions à mener qui pourraient améliorer cette relation. Mais est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont remontées? Alors, je vais peut-être demander à Taoufik. On entend souvent parler des problèmes de contrôle d'identité. Est-ce que c'est des choses qui remontent, Taoufik, d'Alif?
Oui, bonjour. Ce qui remonte, oui, les contrôles aux faciès, les contrôles répétés, le non-respect de la personne et tout ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement dans la bouche des témoins, alors qu'ils soient jeunes ou pas jeunes.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais ça, je pense que ça date pas d'hier, ça date d'il y a, voilà, depuis très très longtemps, on est quand même dans cette situation-là. Et je pense qu'il nous vaut ce que, voilà, c'est des époques, c'est des airs, après peut-être le nettoyage au Karcher. Et après tous les discours qu'on a entendus, on est peut-être dans une nouvelle phase, donc d'assainir ou de s'engager dans de nouvelles relations. Et le travail, il est à faire. Je suis content de voir que les éducateurs, les animateurs, les acteurs sociaux sont aussi autour de cette problématique-là et autour de l'observatoire, parce que je ne pense pas que ni la police, elle peut faire quelque chose seule, ni les citoyens seuls. Moi, je pense que c'est vraiment l'affaire de tout le monde. C'est pas gagné, mais je pense qu'il y a une volonté d'aller plus loin et de faire que ça change. Et voilà, on est plusieurs acteurs associatifs à dire « Ok, on y va ». Cet observatoire-là, il y a une équipe qui va travailler aussi sur le contrôle aux faciès, puisque le préfet lui-même a demandé un rapport sur cette question-là précise. Donc on va travailler en petit comité pour rencontrer le maximum d'acteurs, pour vraiment avoir la réalité un petit peu des choses, avec le témoignage des jeunes et des moins jeunes sur cette question-là. Parce que si vous vous rappelez bien, le jour de là aussi, il y a 2 ans, on a eu un témoignage très fort de la part d'un papa avec son enfant qui s'est fait contrôler à 6h du matin parce qu'il avait une voiture immatriculée à l'étranger. Il n'est pas contre le contrôle, c'est la manière d'être contrôlé, c'est la manière d'être appréhendé, c'est le discours, c'est-à-dire de la police, qui lui a beaucoup plus fait mal que finalement le contrôle en lui-même, qu'il comprend tout à fait. Donc il y a vraiment un travail à faire, et nous, acteurs associatifs, on est très contents d'être associés à ce travail-là, qui n'est pas une affaire simple et qui n'est pas gagnée d'avance.
Ludovic Hermouat, oui, est-ce qu'on peut parler du rapport peut-être?
Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure en présentant l'Observatoire, que c'était une idée nouvelle en France. Je voudrais insister là-dessus, et c'est peut-être pour cela que ça va marcher, puisque la rhétorique de la relation police-population n'est pas nouvelle. En tout cas, des actions ont été proposées, mais elles venaient toujours d'en haut. Ce qui nous différencie de toutes ces actions qui ont pu être menées, c'est que cette fois-ci, ça vient de la base. L'Observatoire a été créé par les acteurs de terrain, et les idées viennent des acteurs de terrain, les actions viennent des acteurs de terrain. Donc, pour revenir sur le rapport, c'est pas un rapport qui a été demandé pour revenir sur ce que Taoufik disait, mais c'est une initiative aussi de l'Observatoire de mettre en place un groupe de réflexion sur ce sujet. Avec Taoufik, on va y travailler, mais bien entendu, avec d'autres personnes, on sera 5 ou 6 autour de la table à travailler sur ce sujet. Et actuellement, une commission a été réunie auprès du défenseur des droits. Et nous, Observatoire, nous serons entendus dans ce cadre-là.
Je vous remercie. Est-ce qu'on peut peut-être faire parler Philippe Nazar sur ce problème, peut-être, donc relation police-population, notamment sur le contrôle d'identité? Est-ce que, comment vous vivez dans l'autre côté cette situation?
Alors, vu de l'intérieur, des choses ont été améliorées. Ça a commencé par la formation. Ça a suivi encore récemment par des dispositifs créés par l'inspection générale de la police nationale. Donc, des choses sont mises en place. Maintenant, comme le disait le délégué du préfet, beaucoup de plans et d'actions sont nationales. Et des fois, ça a du mal à arriver au plus près des fonctionnaires sur le terrain. Donc en effet, les actions comme celles qui ont été menées cette semaine et qui sont des actions locales toucheront certainement les acteurs, mais des deux côtés, hein, que ce soit du côté de la population, que ce soit aussi du côté des policiers, puisque les policiers qui ont vécu cet événement, ça a peut-être changé quelque chose en effet dans leur regard. Donc, en effet, tout est favorable, mais c'est vrai que peut-être il faut faire des choses en local et arrêter les grandes actions nationales. Voilà.
Merci. Mohamed Boulawal, vous voulez intervenir ?
Oui, sur les relations police-population, ou police-jeune d'ailleurs, sur ce qui a été dit, c'est vrai que ce qui remonte du côté des jeunes, c'est qu'il n'y a pas une opposition à la police. Hein, c'est-à-dire, je crois qu'il faut le dire ça. Les jeunes ne sont pas contre la police. Hein, et puis il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient détenteurs du vice et de l'autre ceux qui seraient détenteurs de la vertu. Par contre, ce qui est exprimé, ce qui est contesté, c'est plutôt des pratiques policières. Hein, et certaines pratiques policières. Là aussi, c'est pareil. Je crois qu'il faut aussi nuancer les propos pour ne pas créer effectivement des amalgames et au fond, être dans une espèce d'opposition. Hein, d'un côté des policiers, de l'autre, des jeunes ou une population. C'est pas le cas. Les premiers qui souffrent d'une absence de police, ce sont ces habitants qui vivent dans ces quartiers populaires. Hein, ce sont les premiers qui en souffrent. Donc, je crois que ce qui me semble important de souligner, c'est que, encore une fois, ce qui est remis en cause, c'est plutôt la façon. Hein, donc, certaines pratiques policières, et ce n'est pas la police en tant que telle, qui est pointée par les jeunes comme étant ce qui pose problème dans leur quotidien. Et souvent, d'ailleurs, pour illustrer ça, ils parlent de descente policière, parfois. Hein, c'est-à-dire des groupes, des CRS qui arrivent dans les quartiers et qui se comportent pour eux comme des cow-boys. Hein, c'est le terme qui parfois est employé, avec une espèce un peu de toute puissance qui est exprimée à ce moment-là. Mais on est bien sur des pratiques policières. Hein, on n'est pas sur une contestation de la police.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui s'est creusé entre la police et la population ? Donc sur les pratiques, effectivement, on entend aussi le tutoiement. Hein, beaucoup reprochent le tutoiement des policiers vis-à-vis des jeunes. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un fossé, une crainte des deux côtés, en fait, entre les jeunes et les policiers ? Philippe Nazar, quel est l'état d'esprit des policiers de terrain ?
Alors, on est toujours sur le fil du rasoir, hein, parce que dès qu'on parle de technique ou de pratique, je dirais qu'on parle toujours d'avantages et d'inconvénients. Alors, on parle du tutoiement, bien sûr que c'est quelque chose qui est réprouvé dans tout ce qui est formation de la police. Mais par contre, on sait très bien que si on veut parler de rapprochement, il existe des fois des situations où, en effet, le tutoiement va permettre certaines choses. Bien sûr, après que l'abus et la manière dont c'est amené, il y a des choses, bien sûr, qui sont à réprouver, bien sûr. Mais le contact existe, parce qu'il ne faut pas oublier que le recrutement des policiers est de plus en plus jeune, la moyenne d'âge d'entrée dans la police est de plus en plus jeune, que beaucoup de jeunes qui rentrent aujourd'hui dans la police sont issus de ces quartiers. Et donc là aussi, il ne faut pas croire que les policiers sortent d'une boîte magique sans contact avec la population. Et ils ont un vécu avant d'être policiers. Ont peut-être et surtout certainement vécu eux aussi des contrôles d'identité. Donc avant même d'en être des acteurs, ils en ont été aussi, entre guillemets, des victimes, si on peut utiliser ce mot-là. Je crois quand même que... de ce côté-là, ça avance pas mal. Après, ce qu'il faut combattre aussi, il faut le dire, ce sont des images, des images qui sont posées, mais des deux côtés. Des deux côtés, tous les jeunes, comme il a été dit, tous les jeunes ne sont pas des voyous. Et heureusement que sur le lot de contrôle d'identité qui se passe, il y en a très peu qui amènent des problèmes. Je pense.
Alors, quel est le sentiment des policiers aussi qui interviennent toujours au cœur des quartiers ? C'est pas non plus un métier facile, hein, il faut le reconnaître. Ça va pas être évident au quotidien, quoi, de vivre ça.
Alors, là, c'est une grande question, parce qu'on va dire que concernant l'affectation des policiers, sans tout remettre en cause, comme dans beaucoup de missions, on va demander donc à ces fameux jeunes policiers avec peut-être très peu d'expérience de la vie eux-mêmes en tant qu'hommes, homme de régler des situations qui sont les différends familiaux. Quand on intervient à 22 ans dans un différend familial et qu'on rentre dans la vie d'une famille, d'un couple qui a des problèmes d'argent et ainsi de suite, c'est pas facile à régler, à se situer. Quand on se soi-même, on sort, on commence et on débute dans la vie. Donc il y a ce problème-là aussi. À repenser peut-être, en effet, jeunes policiers affectés souvent à ces missions-là et qui n'ont peut-être pas l'expérience, en effet, de devoir gérer un lot quand même important de situations compliquées et conflictuelles bien souvent, parce qu'il faut penser que, je pense, un peu comme les enseignants, à la fin de sa journée, le policier a essayé de régler tout un lot de situations conflictuelles et c'est pas souvent évident.
Je vous remercie Philippe Nazard. On va revenir à l'actualité donc avec les actions engagées par l'Observatoire, dans le cadre de l'Observatoire. Donc là, on va peut-être donner la parole à Tommy Davis et puis on va retourner vers peut-être Perotto Maxime là pour parler du match gala d'hier. Donc victoire de Lormont, c'est ça?
Oui, victoire de Lormont. Mais bon, ça c'est pour moi, même si tu n'as pas un perdant.
Non, c'était...
Non, vraiment, vraiment. Je pense que les matchs, et tout autour des matchs, c'était la victoire. Parce que pour moi, franchement, le score, c'était pas vraiment important. C'était beaucoup plus que ça. Je pense que quand Ludovic a annoncé qu'il avait envie de faire ça, et on a engagé dedans, pour moi, c'était vraiment la victoire, c'était de voir le policier avec les jeunes, j'ai vu ça, et de voir les jeunes avec le policier, j'ai vu ça. Et j'ai pu dire que ce match, c'était formidable pour moi, parce que je donne juste un exemple, je pense que c'était le mardi, les policiers, l'équipe, ils sont allés au Collège Montagne. Et au début, toutes les petites, ils étaient là, ils ont regardé comme, oh là là, c'est la police, j'ai pas envie de faire rien du tout. Ils étaient contre le mur, ils bougeaient pas. Oui, bon, ils bougeaient pas. Et c'est là que Philippe, il a dit, bon, on mélange, parce que sinon, ça va pas. Et après, ils ont mélangé, petit à petit, ils ont joué ensemble, et ils ont vu autre chose. Et tu avais les petits, ils étaient là, comme ils regardaient les policiers. Et après, hier soir, pendant le match, c'est les mêmes petits qui sont venus au match. Ils sont venus derrière le banc, les policiers. Mmh. Et pour moi, ça dit tout. Ils ont vu les policiers autrement. Moi, j'ai demandé aux jeunes, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu pensais? Ils ont dit, j'ai jamais pensé que les policiers pouvaient être comme ça. finalement, ils ne pensent pas que les policiers sont humains. Ils pensent que c'est vraiment, ils sont là que pour discipliner. Mais là, ils ont vu autre chose. Et pour moi, c'est gagné. Là, c'est gagné. Même si on gagne juste une seule personne pour cet événement, on a gagné beaucoup.
Alors, comment l'équipe de basket a accueilli le projet, l'ensemble de l'équipe de Lormont?
Bon, pour moi, bon, déjà.
Alors, on peut-être laisser parler aussi.
Les basketteurs, mes joueurs.
Alors, comment vous avez accueilli ce projet, Andy Diop? Je dis les noms parce que tout le monde ne veut pas parler.
Ouais, nous, on a très bien accueilli ce projet. En fait, jouer contre l'équipe de France, que ce soit l'équipe de France de police, l'équipe de France de pompiers, l'équipe de France de. Quoi qu'il arrive, c'est pour nous, c'est un plus. Pour, en tant que basketteur, même pour la ville de Lormont. Donc, nous, on a complètement adhéré au projet, tout simplement. C'est une bonne expérience. Ça nous fait travailler d'une pour nous. Et ensuite, ça fait venir du monde au sein du club. Et de manière positive, ça fait voir aussi la police et nous qu'on sait faire des choses aussi avec Lormont et tout ça.
Donc, pas d'a priori avant de jouer contre les policiers?
Des petits a priori sur la police en général, j'ai envie de vous dire. Mais autrement, ça reste des basketteurs, quoi qu'il arrive. Comme tout à l'heure, mon collègue de parquet l'a dit, on se connaît depuis un petit moment. Bon, c'est pas parce que c'est des policiers qu'on peut pas faire un match contre eux ou autre.
On va revenir avec Maxime Perotto, donc vous êtes joueur de cette équipe nationale de police. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette carrière de basketteur déjà, et puis sur cette équipe?
Tout à fait. Moi, je suis un produit gersois, donc Valence Condon, club très connu dans la région. Tommy Davis qui le connaît très bien puisqu'il a joué contre ce club dans sa carrière avec les JSA. Les autres joueurs de Lormont, même génération, donc on s'est croisés en section jeune et maintenant on se retrouve.
Alors est-ce que ça a changé les rapports depuis que vous êtes policier ?
Ben, tout le monde fait son petit bout de chemin, hein. Il y en a qui deviennent agriculteurs, d'autres maçons, et d'autres policiers, d'autres boulangers, voilà, et d'autres éducateurs. Et...
Donc ça ne change pas de rapport.
Voilà, donc étant de la même génération, je pense que même s'il y en a qui font des fausses routes dans les extrêmes et d'autres ont une réussite professionnelle, le dialogue est toujours là, hein. Il n'y a jamais eu de fossé, on va dire. Hein.
Mais grâce à ce sport, justement, peut-être.
Entre autres, ouais, ça c'est le...
C'est le sport
rassemble. Un des outils les meilleurs, je pense, pour approcher ceux qui ont des a priori. Nous, au niveau de la police, eh bien, on est très représentatif de ce qui se passe sur le territoire, hein, puisqu'il y a autant de blacks, de blancs et de beurs dans une brigade, tout comme sur les parquets, tout comme dans la vie. Donc, le fossé et la crise, ça c'est... C'est ficelé, on va dire, et c'est amené, alors que la réalité est tout autre parfois. Hein, donc, il y a jamais de malaise sur les parquets, puisque ce sont les blacks les meilleurs au basket. Donc, on essaie de se mettre à leur niveau, quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le parcours de cette équipe de police, nationale de police? Vous faites un championnat dans l'année, donc entre vous au départ, et puis.
Donc il y a des sélections, hein, pas comme la bande à Parker, bien sûr, mais on a des regroupements, hein, comme l'a dit l'entraîneur, on a 25 jours pour se préparer dans l'année. Tous les 4 ans, on a un championnat d'Europe, et voilà. Et donc là, on rentre de Turin, et on a subi la loi des pays de l'Est, comme d'habitude, comme dans le civil. Et on essaiera de faire mieux prochainement en Grèce, donc dans 4 ans.
Moi, je vous souhaite bon courage. Et alors, sur ce genre d'action, ces matchs gala, vous en faites plusieurs dans l'année ? Avec des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, d'autres équipes
Ouais, voilà. Donc, en préparation, on avait fait une tournée justement dans le sud-ouest, en rencontrant d'autres équipes de valeur nationale ou du même niveau que l'Ormont, et afin de se préparer à ces compétitions. Hein, donc, on essaie de rencontrer diverses équipes pour bien se préparer, quoi.
Et dans cet objectif précis là, de rencontrer vraiment la population pour casser un petit peu cette barrière qu'il y a entre la police et population, c'est la première fois que vous faites ça ou vous en faites d'autres dans l'année?
Quelques années auparavant, on avait fait des opérations dans des hôpitaux avec les enfants malades, dans les quartiers, quelques opérations ponctuelles mais très très locales, mais pas avec l'équipe nationale. Mais bon, là, ça va, on n'a pas d'a priori. Hein.
Oui.
Non, aucun souci, aucun problème. On serait allé dans des endroits peut-être un peu plus sensibles, mais quand même, dans le sud-ouest, on vit bien, il n'y a pas de gros soucis et de problèmes.
D'accord, donc pas d'a priori d'aller jouer contre des jeunes de quartier.
Non, pas du tout. On voulait gagner, mais bon.
Donc ça s'est joué un point, hein, je crois, c'est ça. Hein.
Oui, à peu près.
Mais leur mot mérite quand même de figurer un peu plus dans le paysage du 33.
D'accord, c'est retenu. On va revenir, Ludovic Armoit, sur les autres actions menées par l'Observatoire. Alors, j'ai entendu dire que l'équipe de basket avait été voir les collégiens, c'est ça ? Comment ça s'est passé ?
Oui, alors, donc, nous sommes allés effectivement au collège Montaigne. Ce collège a une particularité d'avoir une classe spécialisée défense et sécurité globale, avec son principal de collège, Monsieur Lascaux. Et donc, nous avons pensé qu'il eût été intéressant de rencontrer ces jeunes donc, qui sont dans cette classe spécialisée, professionnalisée, on va dire, hein, qui tend à montrer un petit peu les métiers sur le secteur de la défense et de la sécurité. Mais au-delà, c'est une classe qui travaille sur les valeurs de la République et donc et que je tiens à souligner. Il y a moins d'une dizaine de classes de ce type en France et celle du Collège Montaigne est citée fortement en exemple. Donc nous avons rencontré ces jeunes qui, effectivement, comme l'avait dit Tommy, au début étaient sur la défensive, se demandaient ce qui allait leur arriver, est-ce que c'était encore une descente de police ou pas. Mais en fait, très vite, le climat de confiance s'est instauré. Et j'ai même vu à la fin une complicité. Hein, les gamins, on a mangé avec eux ensuite après le match et on a beaucoup, beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et en sortant du réfectoire, les gamins étaient en train de se chamailler avec les policiers, mais chamailler dans le bon sens du terme, c'était des grands et des petits frères qui s'amusaient, quoi. Donc voilà, c'était un moment fort. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et les gamins également. Et pour revenir aussi sur ce que disait Tommy, hier soir, j'ai vu des gamins que les policiers avaient rencontrés qui sont venus échanger leurs coordonnées. Voilà. Donc, bon, c'est ça, c'est l'aventure.
Et alors, est-ce que les jeunes sont intéressés pour postuler à la police ?
Alors, il est peut-être un peu tôt, pour aller vite dans ce sens. Pour autant, on rencontre tous les jours des jeunes qui viennent se renseigner, des jeunes qui viennent nous demander de pouvoir bénéficier de la préparation au concours qu'on leur propose. Donc ça prend, mais après c'est pas nouveau. Hein, la police reste un métier qui intéresse quand même beaucoup de jeunes. Donc on ne part pas de très loin à ce niveau-là. Voilà, mais tout est amélioré.
Merci Ludovic Hermoite. On laisse la parole à Fabienne Tapon qui voulait intervenir.
Oui, et dans cette dynamique, justement, il y a le service jeunesse dans le cadre de ces journées biches que vous les présentez, prépare avec, en partenariat justement avec la DIRF et le délégué du préfet une présentation des métiers de la sécurité et de la protection en janvier. Et dans le cadre de ces activités aussi, il y a la maison d'insertion et de l'emploi de Lormont, et plus particulièrement la mission locale, qui travaille sur l'idée de préparation au concours des ADS. Et ça s'est déjà fait, ça doit continuer, ça doit évoluer. Voilà.
Merci Fabienne Tapon. On va aller sur un dernier point maintenant. Je voudrais voir sur quelle piste peut-on envisager pour améliorer cette relation police-population. Donc on a vu des actions donc concrètes comme le sport. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous imaginez qui pourrait améliorer? Donc on était un peu, je vais le lancer puisque personne n'a lancé encore, sur cette police de proximité. Est-ce qu'on doit, vous êtes plutôt favorable sur une police de proximité, ou est-ce qu'il y avait des inconvénients, avantages, ça a été débattu? Voilà, donc je vous laisse peut-être Mohamed Boulawal sur la JAG.
Alors, donc en termes de pistes d'amélioration, d'amélioration des relations, police-population, je préfère la population que jeune, hein, parce que si on dit jeune, là aussi on stigmatise une partie de la population, enfin des quartiers, et la police a vocation aussi à intervenir à l'ensemble d'un quartier, donc c'est pas que les jeunes. Alors, sur les pistes donc ça a été évoqué dans des réunions, hein, de l'Observatoire, plusieurs pistes, notamment des pistes donc autour de la formation, par exemple. Alors, formation en direction des policiers, mais aussi en direction, pourquoi pas, des intervenants qui travaillent sur ces quartiers-là. Hein. On parle de représentation parfois figée, hein, donc dans la tête de certains jeunes, mais également dans la tête de certains policiers. Mais on a les mêmes processus aussi, chez d'autres professionnels. Donc je crois qu'il y a aussi un travail à faire au niveau professionnel, pour arriver à gommer quelques stéréotypes, de manière à favoriser les rencontres entre policiers et d'autres professionnels, hein, notamment ceux qui interviennent dans le champ du travail social. Donc là, je crois qu'en termes de pistes, effectivement, peut-être des choses autour de la formation. Après, je crois aussi, ça a été évoqué aussi, le problème, c'est que souvent, en fait, les jeunes ne voient la police que sous la négative. Ils ne les voient que quand il y a sanction ou il y a répression. Et peut-être qu'il faut changer un peu les modes opératoires. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Et on se rapproche du coup de la police de proximité de manière à inscrire, de manière régulière, la présence policière dans les quartiers, de façon finalement à ce que la police fasse partie un peu du cadre environnemental, c'est-à-dire que rendre un peu familier en quelque sorte, donc la présence policière dans les quartiers, et auquel cas à ce moment-là, le policier ne sera pas perçu comme quelqu'un qui vient quand il y a un problème, mais il peut être aussi perçu comme quelqu'un sur qui on peut prendre appui, pour toute autre chose que pour un problème. Donc c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y a des choses à la fois à voir en termes d'information, de sensibilisation, mais il y a aussi des choses à voir en termes de pratiques policières. Est-ce que ça peut déboucher sur une police de proximité? Moi, plutôt que de parler de police de proximité, je pense qu'il faut parler plutôt enfin de voilà enfin des modalités qui permettraient à la police d'être on va dire un peu plus régulière hein, en termes de présence face sur les quartiers, encore une fois pour s'inscrire hein, dans un environnement voilà un peu familier hein, enfin des habitants de ce quartier là voilà je crois que
et mieux de se connaître hein.
Et mieux se connaître parce que mieux se connaître c'est aussi ce que vous dites c'est aussi enfin pouvoir effectivement donc enfin communiquer c'est aussi enfin pouvoir casser justement hein, ces représentations dont on parlait tout à l'heure et donc c'est aussi là aussi enfin pouvoir vivre comment dire améliorer encore une fois les conditions d'y vivre ensemble. Je crois que c'est et ça moi je crois que ça doit passer effectivement par des changements encore une fois de pratiques hein, enfin de pratiques policières mais également enfin pourquoi pas enfin des actions enfin de formation de sensibilisation. Le même travail est aussi à faire au niveau des quartiers, mais ça a commencé aussi, voilà, de manière à ce que les jeunes dits des quartiers puissent voir aussi la police autrement que sous l'uniforme. Hein, ce qui a été le cas hier soir dans le match, au travers du match de basket. C'est vrai que c'est, on voit à quel point c'est une opération qui a eu des effets positifs. Après, toute la question est de voir comment ce type d'opération peut être reconduite hein, de façon vraiment à avoir des effets positifs importants. C'est-à-dire que le problème, c'est ça aussi, c'est que bon, il ne faut pas que ça reste une opération comment dire, qui a été menée comme ça de manière et qui n'est pas de suite derrière. Hein, c'est, si on veut changer les mentalités, les perceptions et les rapports entre les gens, c'est un chantier énorme qui doit s'inscrire aussi dans le temps et dans la durée.
Merci Ludovic Hermouette.
Oui, pour aller dans la continuité de ce que disait Mohamed Boulawal, nous sommes rencontrés. C'était le postulat de départ pour ensuite essayer de construire. Hein, c'est là-dessus que nous allons travailler, dans l'observatoire, mais également de manière plus large. Nous allons travailler sur ces nouveaux rapports, sur cette nouvelle relation police-population. Pour revenir sur l'information, la formation, d'autres actions, bien entendu, complètement différentes ont été mises en place, notamment à la Maison de la Justice et du Droit, notamment sur l'information de la plainte. Comment marche une plainte? À quoi ça sert? Pourquoi quelquefois c'est classé? Quels sont les recours quand c'est classé? Et ça, c'est une information qui s'adressait aux acteurs de terrain qui eux-mêmes sont capables ensuite d'aller relayer ça auprès de la population lorsqu'ils les rencontrent. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque les autres communes nous ont demandé également de venir présenter ce dispositif donc chez elles. Donc on y travaille, bien entendu.
Alors est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la plainte? Parce qu'il y a beaucoup de problématiques sur le moment où on va porter plainte. Hein, c'est ça.
Bien entendu, dans le cadre de l'observatoire, nous avons commencé de manière collégiale à faire un point sur, enfin à faire un diagnostic sur ce qui n'allait pas et pourquoi il y avait toujours des remontées négatives sur l'action de la police. Et celle-ci en faisait partie puisque la plainte c'est quelque chose d'incompris. De troubles, de mystifier. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils passaient quelquefois des heures à attendre au commissariat, pourquoi la plainte, une fois qu'elle était déposée, il n'avait pas de suite. Donc tout cela, c'est un travail d'explication. Et les gens qui étaient là, les acteurs de terrain qui ont participé à cette séance d'information, sont ressortis en disant « je comprends mieux et je vais pouvoir relayer une meilleure information ».
Alors, est-ce que ça ne soulève pas une autre problématique qui est le fossé entre la police et la justice? Et peut-être la justice et la population aussi?
Le fossé police-justice, c'est un mythe également. Hein. Je peux vous assurer que la police et la justice se voient régulièrement, se parlent tous les jours. C'est un débat qui est un peu faussé et sur lequel je ne souhaite pas revenir ici parce qu'on est en fin de démission et à
d'accord,
mon avis,
oui,
on peut y passer l'après-midi. Donc ça, c'est un mythe. Ensuite, entre la population et la justice, je dirais plus largement, il y a un problème entre la population et ses services publics. Et peut-être, c'est un rêve, mais c'est un rêve peut-être à court terme, un jour, l'Observatoire aura pour mission d'élargir et peut-être de travailler sur la relation police et services publics.
Merci Ludovic Hermouette. Je voulais donner la parole à Taoufik Karbiak, directeur d'Alif. Donc sur les pistes à envisager.
Alain, les pistes, si j'avais des pistes, je serais peut-être au ministère. Hein, ici, bon,
et mais... pourquoi pas
Non, je veux revenir un petit peu sur la police de proximité. Pour moi, c'est toute la police qui doit être dans la proximité, police de proximité ou pas. La police, c'est la police de la République, c'est-à-dire qui doit être exemplaire, qui doit veiller aux valeurs de la République, qui sont égalité, fraternité, justice et tout le reste. Et c'est cette police-là qu'on veut vraiment retrouver sur le terrain. Moi, les actions comme ça, ok, ça peut aider tout ça. Mais fondamentalement, moi, j'essaie de réfléchir sur la vocation de la police et le rôle de la police. Je vais peut-être un peu loin. On a des forces de l'ordre, force et ordre. C'est pas la citoyenneté, c'est pas le dialogue. On est quand même sur quelque chose quand même qui de suite s'est posé quoi. Est-ce que éventuellement on va changer, c'est-à-dire la vocation de la police pour dire c'est la police de proximité, c'est la police de la citoyenneté, c'est la police de la République qui a d'autres fonctions. Que finalement, oui, la fonction essentielle qui est la sécurité, c'est avant tout, c'est la prévention, c'est être là, c'est rassurer les gens, c'est discuter avec les gens. Et je pense que c'est de cette police-là, de cette volonté-là, qu'on va changer tous les rapports, parce que si on reste sur la police telle qu'on l'a imaginée en France depuis peut-être très très longtemps, hein, je pense qu'on ne changera pas beaucoup dans les rapports, on sera toujours dans cette police qui doit intervenir de cette façon-là, parce qu'elle est là avant tout pour assurer l'ordre et pour assurer la sécurité. Alors que peut-être, on peut regarder d'autres pays, hein, l'Angleterre, il y a une police effectivement qui assure ça, mais il y a aussi une police qui est dans la proximité, qui connaît très bien son territoire, qui connaît très bien sa population, qui est dans une autre relation avec, c'est-à-dire la population, qui n'est pas simplement une relation de sécurité ou d'intervention. Donc c'est vraiment autre chose.
Merci. Philippe Nazar, est-ce que vous voulez intervenir sur les pistes à envisager et sur ce qui a été dit déjà ?
Alors là où je suis d'accord, c'est que on pourra créer tous les concepts que l'on voudra, puisque je vais me servir en effet de comme disait Ludovic, de cette rencontre. Si on parle de proximité, forcément on parle de rencontre. Et dans une rencontre, il faut que les deux le veuillent. Donc c'est là-dessus qu'il faut en effet travailler. Après, on peut inventer tous les dispositifs et tous les concepts. Et qu'on essaie, entre guillemets, dans les missions de rajouter des choses aux policiers et ainsi de suite, ça marchera ou ça ne marchera pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer, et des choses fondamentales. Mais c'est vrai qu'on parle de force de l'ordre, mais nous, on aime bien aussi notre première fonction, qui est gardien de la paix aussi, donc c'est noble aussi. Donc notre travail, on l'aime. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de régulations, à faire, hein, c'est vrai.
Alors qu'est-ce qui a changé ? Il y a beaucoup de choses à changer, qu'est-ce qui a changé ?
Déjà, la formation, on en a parlé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la formation. Le visage de la police aussi a changé dans les critères de recrutement, on en a parlé. C'est pour ça que dans toutes ces actions, on a mêlé le recrutement aussi à ces actions de prévention. Parce que c'est vrai que maintenant, le fait pour tout un chacun de pouvoir accéder au métier de la police sans avoir forcément de diplôme avec les dispositifs qu'on a mis en avant, qui sont les cadets de la République, qui sont les adjoints de sécurité, ça a permis en fin de compte de renouveler. C'est vrai que nous, on peut voir, on est en province ici, et puis on a pu s'apercevoir aussi que, entre guillemets, la moyenne d'âge des policiers dans les commissariats du Sud-Ouest a nettement chuté aussi. Le recrutement est beaucoup plus jeune. Donc ce sont ce genre de choses-là qui vont certainement amener beaucoup de changements. Parce que force est de constater quand même que, mis à part des épiphénomènes de temps en temps qui se déclarent dans les quartiers, on peut quand même considérer aussi que par rapport à d'autres pays, ne serait-ce que européens, hein, si on prend les derniers faits qui sont déroulés en Grèce, ça se passe pas trop mal quand même sur notre territoire national. Et l'autre exemple que je prendrai, c'est toutes ces dernières affaires qui a pu avoir lieu sur Marseille et qui ont été réglées sur un point de vue judiciaire, parce qu'il y a eu aussi des bons rapports sur le terrain et où ce sont les habitants qui ont et les renseignements qu'ils ont pu donner qui ont aidé la police aussi à clarifier certaines affaires. Donc ça, on doit s'en féliciter aussi, parce que tous les efforts que pourra faire la police, ça ne pourra marcher aussi que si la population aide sa police aussi, parce que nous aussi, on a besoin de la population. Voilà.
Merci. Donc, on va passer la parole aux éducateurs de la JAG, peut-être, si quelqu'un veut bien s'exprimer.
C'est vrai que je trouve très intéressant de pouvoir partager sur ce débat-là, parce que c'est un débat qui est très long. Il y a beaucoup de sujets aussi abordés, parce que là, en vous écoutant tous, j'ai essayé de relier ça à notre pratique. Et c'est vrai que nous, on travaille auprès des jeunes. Donc c'est vrai que la police, on la connaît pas bien, mais par contre, les difficultés que rencontrent les jeunes, on les connaît assez bien. Et c'est vrai qu'il y a... c'est pour ça que c'est des débats très très longs, parce que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés au sein de leur quartier aussi. Je veux dire, par exemple, les problèmes d'insertion professionnelle aussi. Donc il y a beaucoup de choses que... beaucoup de difficultés que les jeunes rencontrent. Et après, bah, voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui amènent les jeunes aussi, des fois, à rendre la situation compliquée. Par exemple, on parlait, est-ce que les jeunes vont postuler dans la police. C'est vrai que les jeunes aussi, parfois, ont un casier. Donc c'est vrai qu'aussi, les problèmes de casier, ça les empêche aussi d'accéder à certains emplois. Enfin, voilà. Donc après, ce que je retiendrai, c'est que toutes les actions de proximité, je pense, sont bonnes à prendre. Essayer de rapprocher, parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, il y a un fossé qui s'est installé. Ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Nous, c'est vrai qu'on a un rapport de proximité avec les jeunes, et on se rend compte que le fait de les rencontrer sur le quartier régulièrement, voilà, c'est des choses qui permettent d'amener un lien de confiance entre les jeunes et nous. Parfois, les jeunes aussi ont des difficultés à travailler avec certains éducateurs, mais voilà, le fait d'être régulièrement sur le quartier, ça nous rapproche d'eux. Et je pense que la police aussi mériterait aussi de pouvoir avoir ces temps-là. Donc c'est vrai que le sport, par exemple, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes.
Qui rassemble,
le football, le basketball. Donc c'est vrai que rien, voilà, des supports comme ça, je pense que déjà c'est très très important. Et après, voilà, le débat pourra se poursuivre. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, ça c'est déjà très très bien.
Alors avant de passer la parole à Ludovic Hermouet, peut-être pour conclure, est-ce que des jeunes basketteurs de Lormont pourraient, eux, avoir une idée de piste pour améliorer cette relation police-population? Oui, je sais.
Vous avez du jeune, donc je vais laisser la parole à mon collègue Badou, qui est vraiment plus jeune que moi.
Ce que vous ressentez aussi, vous, hein, de jeunes que vous côtoyez, des relations police-population, est-ce qu'il y a des pistes?
Moi, j'habite dans un quartier aussi. Donc ouais, je vois de temps en temps, je vois des contrôles assez rudes quand même. J'assiste à beaucoup de contrôles, des embarquements et tout ça. Bon, après, faut pas toujours dire la police, tout ça, ils font. Je sais qu'ils sauvent des vies et tout ça, bien sûr. Je sais que j'ai déjà assisté à des trucs. Je sais qu'ils ont déjà sauvé des vies et tout ça. Donc le truc, c'est que moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec la police ou quoi que ce soit. Mais comme je vous ai dit, j'ai déjà vu des scènes et tout ça. Mais le truc, c'est que voilà, c'est que vous dites, monsieur Toufik, c'est chacun doit faire un pas en avant, comme on dit. Et voilà, j'ai pas trop grand chose à dire, mais voilà.
C'est... Alors, si vous deviez intervenir dans l'observatoire et donner des conseils à tous pour l'amélioration de cette relation.
Cette relation, ça fait la bise et puis voilà. C'est bon. Ah, je plaisante, mais. Voilà,
d'accord. Bon, merci. Tommy Davis, ça me dit un dernier mot.
Oui, un dernier mot pour moi. Je pense que j'ai fait beaucoup des interventions, même aux États-Unis, et même j'ai les familles dans les polices. Et toutes les polices là-bas, quand tu vois les voitures, c'est de protéger et de servir, de protect and serve. Mm. Et moi, pour moi, c'est quelque chose très très bien, parce que moi, j'ai toujours grandi en voyant des polices autrement que juste pour venir ici pour discipliner les gens. J'ai vu manger avec eux, j'ai vu les choses avec eux comme qui sont humains. Et c'est pas que les policiers. Et pour moi, les choses les plus importantes, c'est le respect. C'est le respect pour tout le monde. Les polices, ils devraient avoir le respect pour les jeunes. Et les jeunes, ils devraient avoir le respect. Et si on travaille comme ça, ça, c'est les valeurs pour moi, peut-être les plus importantes. Et déjà, tu vois, moi, j'ai toujours aimé. Et ce que j'ai fait, c'est utiliser le sport comme vecteur. Et je pense qu'avec les jeunes, on continue de l'utiliser comme ça. Mais après, on a beaucoup d'autres vecteurs aussi. Mais pour moi, c'est vraiment par le sport. Et je vois que ça marche. Aujourd'hui, après le match de basket, je sais qu'avec les jeunes, à travers le sport, avec les policiers, je pense que ça va toucher pas mal de gens.
Merci Tommy Davis. Voilà. On va laisser la parole à Fabienne Tapon de la ville de Lormont pour savoir peut-être connaître l'implication de la ville de Lormont pour la suite aussi.
pour conclure, de toute façon, la ville de Lormont, elle continuera d'accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les initiatives qui peuvent améliorer le bien vivre ensemble. Hein. Toute action qui favorise la bienveillance, le respect réciproque, hein, comme ça vient d'être dit. Après, les choses changent aussi. Hein. Ça, tout à l'heure, on parlait des plus jeunes, le rapport à l'adulte, à l'autorité, il a évolué. En effet, faut pas non plus stigmatiser sur les jeunes, c'est un peu tout le monde. C'est pas si simple, c'est pas que difficile avec les rapports à la police, même s'il y a aussi cette catégorie. Avec les institutions en général, c'est pas simple. Il faut rétablir le dialogue. Enfin, supposer qu'il soit... Enfin, il n'est pas non plus en si piteux état que ça, mais il faut améliorer et que tout le monde avance et continuer à se rencontrer. À se rencontrer, toutes les initiatives seront bonnes et la ville accompagnera et développera ça.
Merci Fabienne Tapon. Donc on termine sur l'actualité peut-être, Ludovic Hermouette, les futures actions là envisagées, est-ce qu'il y en a ?
Alors, bien entendu, je ne vais pas tout dévoiler maintenant puisqu'on est en période de réflexion avec l'Observatoire sur les actions à mener pour 2014. On en a un petit peu discuté tout à l'heure avec Taoufik Karbia. On est en train de monter ce groupe de travail qui va donc réfléchir sur les relations, les contrôles et les contrôles et les vérifications d'identité. Qu'est-ce que c'est, la base légale, comment, pourquoi, et de manière à pouvoir l'expliquer. Puisque tout à l'heure, donc, monsieur disait qu'effectivement, il a vu quelques contrôles un peu musclés. C'est une réalité, mais quelquefois, c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier que la police, on a beau essayer de travailler les relations police-population, mais après, son métier, c'est d'abord de protéger, mais également d'intervenir lorsque des infractions sont commises. Et là, quelquefois, il faut faire usage de la force. Taoufik Karbia, tout à l'heure, parlait de la force et de l'ordre. Moi, je dirais que dans le cadre de l'Observatoire, le premier postulat qu'on a mis en place, c'est que le respect de la règle n'est pas négociable. Donc, on travaille sur tout ce qui tourne autour de manière à améliorer les relations. Mais à un moment, la police, elle est là pour intervenir. Et ça, et les gens sont en demande aussi, puisqu'elle intervient d'abord pour protéger les victimes. Oui. Donc voilà. Et ça me fait rappeler une formule d'un philosophe qui un jour avait dit « à force de vouloir... la force sans le droit sans la force, nous aurons un jour la force sans le droit. » Donc il faut y faire gaffe. Donc on n'est pas là non plus pour être une police de cirque, on va dire. Hein. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour faire notre métier qui est de protéger. Et pour cela, il faut qu'on ait la confiance de la population. Et la confiance, elle s'acquiert à travers ces actions que nous menons. Donc de venir vers la population et expliquer ce que fait la police. Voilà.
Merci Ludovic Hermouette. Merci à vous tous. Donc, c'était un très beau plateau. Donc on se retrouve le mois prochain pour une autre question de médiation. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Eau de Radio.
Merci.